Je vous propose d'écouter Marie-Aube Ruault, la libraire de la Carline, de nos amis la Carline à Fort-Calquier, qui va nous donner quelques conseils. Mais avant, je l'ai interviewée sur la situation des libraires. Allez, on l'écoute. Faisons le tour des libraires de la région et aujourd'hui on va donc à Fort-Calquier. Bonjour Marie-Aube Ruault.
Bonjour.
Marie-Aube, qu'est-ce que vous avez mis en place dans la période actuelle de crise sanitaire pour que les gens puissent lire?
Contrairement à la première période de confinement où on avait fermé complètement le magasin, on faisait aucune commande pendant 2 mois et aucun retrait ni livraison. Parce que ça nous semblait plus responsable de faire comme ça, étant donné qu'on connaissait rien à rien, qu'on n'était pas préparé, etc. Cette fois-ci, on n'a jamais arrêté. Donc, dès le lendemain de la fermeture, on a continué en faisant le clic et cueillette, comme on dit. C'est-à-dire que les gens peuvent nous appeler, nous faire des mails ou aller sur notre site. On est relié au site Place des Libraires par notre association régionale. Qui s'appelle Libraire du Sud. Donc, si les gens vont sur le site de Libraire du Sud ou directement sur Place des Libraires, ils peuvent nous faire des commandes aussi. Et également, la différence avec le premier confinement, c'est que la chaîne de distribution des livres ne s'est pas arrêtée. Donc, ça veut dire que même des choses qu'on n'a pas en stock, on peut les commander, on est livré comme d'habitude. Et pour le retrait des commandes, ça se fait à la porte de la librairie, aux horaires habituels d'ouverture en hiver, c'est-à-dire 9h, midi et demi, 14h, 18h, sauf le dimanche.
C'est une belle initiative que beaucoup de vos collègues ont évidemment aussi mis en place.
En fait, dans l'ensemble, la profession n'a pas du tout la même position que la première fois. Autant la première fois, on était hyper clair sur le fait que si on faisait un confinement, c'était quand même très nouveau, mais on s'est dit, s'il y a confinement, ça veut dire qu'il faut que les gens se déplacent le moins possible. Et si on fait du clic et cueillette, ils vont se déplacer ne serait-ce que pour chercher leur commande. Cette fois-ci, on a dit, et notre syndicat l'a dit publiquement plusieurs fois, on était prêts, on pouvait accueillir des gens dans des bonnes conditions, et donc on comprend pas vraiment qu'on soit obligé de fermer, mais c'est vrai pour d'autres magasins, d'autres commerces de centre-ville. Hein. Nous semble complètement absurde de fermer les petits commerces et de laisser les grandes surfaces ouvrir. D'ailleurs, il y a des endroits où ça a été fait à l'inverse, c'est les petits commerces qui ouvrent dans certains pays et pas les grandes surfaces. Donc, du coup, on prend tout ce qui est possible, ce qui est légalement à notre disposition pour continuer à travailler le plus possible, sachant que de toute façon, ça va être catastrophique si jamais ça se prolonge au mois de décembre, puisque, en gros, les libraires font, comme beaucoup de petits commerces, presque un quart, voire un cinquième ou un quart de leur chiffre annuel sur ce mois.
Pouvez-vous nous décrire un petit peu les conséquences qu'il peut y avoir pour un auteur par rapport à la crise ?
Peut être vraiment très catastrophique pour un éditeur ou pour un auteur. Et dans les auteurs, j'inclus évidemment tous les illustrateurs, les traducteurs, etc. Pour des maisons moyennes d'édition, par exemple, si les nouveautés de cette période-là, de novembre, qui sont sorties en général pour faire la fin d'année, Noël, etc., ne fonctionnent pas, ça peut être vraiment une catastrophe. Ça peut mettre la clé sous la porte, éventuellement. Et pour les auteurs de ces livres, c'est terrible. Déjà avant le premier confinement, les gens qui ont lu des livres qui sont sortis en mars, ça veut dire qu'ils sont morts, en fait, parce que quand on rouvre 3 mois après, il y en a d'autres qui arrivent. Et donc, ceux-là, en gros, si on les a pas lus et qu'on n'en fait pas un coup de cœur, nous, dans chaque librairie, c'est fini pour eux. Donc, ça veut dire que pour les auteurs, ça peut être vraiment, vraiment dramatique. Après, ça dépend desquels, évidemment. Il y en a qui vivent pas de ça, il y en a qui en vivent très, très, très bien, mais c'est rare. Et ceux-là, effectivement, ils peuvent supporter une période sans droit d'auteur. Mais pour la plupart des auteurs, c'est vraiment très, très dommageable, quoi.
Et vous venez d'ailleurs de le souligner très justement, l'importance du libraire qui se fait l'écho du cœur pour donner des coups de cœur, vos coups de cœur. Pour les auditrices et les auditeurs de Fréquence Mistral, conseil lecture par Marie-Aube Ruault de la librairie La Carline à Fort-Calquier. Premier coup de cœur.
C'est un livre, c'est un roman étranger. C'est un roman danois qui est paru chez Gallimard à la rentrée de septembre. Et l'auteur s'appelle Kim Leine. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, ça s'écrit L-E-I-N-E. Et le titre, c'est L'homme rouge et l'homme en noir. Et c'est un roman étonnant parce que c'est écrit par un écrivain nordique. Et on dirait un roman latino-américain, c'est-à-dire il y a le côté flamboyant, les pieds dans la boue, violent, drôle. Enfin, c'est un livre étonnant qui est basé sur une. C'est en même temps un roman historique qui parle du dessin du roi Frédéric du Danemark à l'époque de la conquête du Groenland, où il s'était mis en tête parce qu'il y avait encore très peu de gens là-bas qui avaient colonisé. Du coup, il s'est dit, je vais créer une colonie nouvelle de toutes pièces. Donc, il a envoyé des gens, des missionnaires, des fonctionnaires, des militaires, etc. Et il se trouve qu'il y a un missionnaire qui a tenu son journal. Donc ça, c'est une vraie personne qui a existé. Et à partir de ce journal, dont il met d'ailleurs des extraits à chaque de chapitre, l'auteur nous raconte toute cette histoire qui a été un fiasco absolu. Ils ont fait n'importe quoi. Ils ont, comme d'habitude, hein, on arrive avec nos certitudes et puis les locaux n'ont rien compris à rien. Ils sont des sauvages et on doit surtout pas les laisser nous apprendre quoi que ce soit. Et du coup, vu que c'est quand même des conditions extrêmes, le Groenland, ça se passe très mal. Mais c'est surtout la façon dont c'est raconté. Alors, c'est un gros roman, on plonge dedans et vraiment on se laisse embarquer par cette écriture foisonnante. Moi, je lis beaucoup d'auteurs latino-américains, j'aime beaucoup ça. Et vraiment, ça m'y a fait penser. Les chapitres font alterner justement les personnages qui parlent à la première personne entre l'homme rouge et l'homme en noir. L'homme rouge étant un chaman groenlandais et l'homme en noir, évidemment, un pasteur protestant. Je commence avec le prologue. Archipel de Gotab, été 1724. Je suis Apalutok le Rouge. Je peux aller partout, comme le dit le pasteur. Il le dit avec dédain, mais c'est la vérité. Et il le sait fort bien, même s'il ne l'admettra jamais. En fait, je possède un trou. Pas le trou de balle, ni le trou pour bouffer, ni un de ces orifices que l'on voit, mais un trou invisible. Et je suis capable de me retirer en moi-même par ce trou, comme un maelstrom qui se dévore lui-même. Et je lâche mon âme, ma tarniga, si bien qu'elle s'envole tandis que je reste inconscient cloué par terre. Le corps est l'enveloppe charnelle de l'homme, tandis que l'âme peut voyager aussi loin qu'il le faut à travers les terres. Je peux aller partout. Non pas que ce soit facile, c'est dur et douloureux de se libérer de son corps. Cela exige un véritable mépris de la mort. Mais une fois que je me suis dégagé, ça se passe bien. Je peux remonter dans le passé, avant le temps qui s'est écoulé, me trouver dans plusieurs endroits à côté de celui que nous appelons le présent. Et il s'agit juste de trouver comment on traverse le mur. Le futur existe aussi d'une certaine façon, mais ces endroits sont encore vides et ils ne sont pas très drôles, sauf si l'on a besoin du vide. Le titre, c'est « L'homme rouge et l'homme en noir ». L'auteur, c'est Kim Lane. Et les éditions, c'est Gallimard dans la belle collection du monde entier, où il publie les auteurs étrangers. Deuxième coup de cœur, je vais vous parler d'un roman qui est tout à fait d'actualité en ce jour d'élection américaine. Un premier roman d'un auteur américain qui s'appelle Stephen Markley. Et le titre du livre, c'est Ohio, comme le nom de l'État américain. Et c'est publié chez Albin Michel. Et c'est un premier roman absolument époustouflant. D'abord parce qu'il est extrêmement maîtrisé, la construction est complexe et l'écriture est très belle, et c'est quand même un premier roman, donc c'est rare qu'un premier roman soit à ce point-là maîtrisé. C'est l'histoire de cet État, et donc qui est vraiment très très symbolique des États-Unis d'aujourd'hui. Ça se passe sur une soirée. Quatre anciens camarades de lycée reviennent par hasard au même moment dans la ville de l'Ohio qu'ils ont quittée quelques années avant. Chacun pourra aller vivre sa vie différemment. Et en fait, ça va replonger dans leur passé, ça va les replonger les uns et les autres dans leur passé. On suit l'un après l'autre les quatre personnages. On a à chaque fois un retour en arrière sur le début de la soirée, puisqu'on repart au début pour un nouveau personnage. Mais il n'y a aucune difficulté à s'y retrouver dans les personnages. Ils sont extrêmement forts, c'est assez violent, assez noir. En gros, c'est l'Amérique de Trump. C'est aussi les désillusions du rêve américain. C'est assez classique dans un sens parce que ça parle de thèmes comme le patriotisme, les amitiés de lycée, c'est toujours un thème un peu fort chez les Américains. Et après, ça parle vraiment de politique puisque ça se passe en fait juste après le 11 septembre. Il y en a un des quatre qui est parti faire la guerre, l'autre qui a combattu contre Bush à l'époque. Enfin, chacun a des expériences différentes et c'est c'est très noir, c'est assez violent, ça se termine en une apothéose inattendue de violence, mais c'est vraiment un très beau livre, les personnages sont hyper attachants et l'écriture superbe, et donc on a eu un coup de cœur pour ce premier roman américain de Stephen Markley, Ohio, chez Albin Michel.
Dernier coup de cœur et mot de la fin. Un autre coup de cœur.
Traduit de l'hébreu, c'est un polar israélien. L'auteur s'appelle Dror Mishani et le titre c'est Une de trois. Et c'est encore un roman chez Gallimard dans la série noire. C'est un thriller. C'est un thriller mais qui est très original, qui démarre pas comme un thriller. On a presque l'impression d'une espèce de roman d'amour à l'eau de rose, un peu banal, rencontre d'un homme et d'une femme, du point de vue de la femme, voilà, elle fait une rencontre sur Internet, ça se passe plutôt bien, le type est sympa, etc. Et ce qui est très fort, c'est que il y a trois parties, en fait, la partie 1, la partie 2 et la partie 3, qui vont mettre en scène trois femmes différentes. Et vraiment, on sent juste une tension dans l'écriture. Mais on ne sait pas pourquoi. Il ne se passe rien de particulièrement grave ou angoissant. Et pourtant, on sent qu'une angoisse monte et qui, évidemment, finit par exploser, notamment à la fin de la première partie. Je ne le dis pas pourquoi, parce que sinon, je vais trop en révéler. Mais c'est un très, très bon thriller et qui vous tient en haleine jusqu'au bout, avec une chute inattendue aussi. Donc, vraiment à recommander pour les gens qui aiment bien les livres en tension. Une, deux, trois. De Dror Mishani chez Gallimard en série noire.
Allez, le mot de la fin. Ça fait combien de temps que ça existe, la Carline ?
La Carline, elle a été créée dans les années 80. En fait, probablement, que j'ai pas tout à fait la date exacte, mais je pense en 82, peut-être même en 81, juste après la loi Langue qui sur le prix unique du livre, qui a permis en fait l'éclosion de pas mal de librairies indépendantes, puisque si on rappelle l'origine de cette loi, l'idée c'était de ne pas faire de concurrence par le prix. Donc la concurrence entre les points de vente de livres, elle se fait sur autre chose que le prix, puisqu'il est au même prix partout, et elle se fait notamment sur le conseil et le choix des livres. Et c'est comme ça que la France est un pays qui contient plein de petites librairies indépendantes, dont la nôtre. Et moi, je l'ai reprise en 2007, et maintenant, on est trois à la faire tourner.
Eh bien, on vous souhaite longue vie. On vous souhaite évidemment de bien conseiller les gens, parce que ça donne envie de lire encore plus. Je pense que Amazon ne pourra jamais s'aligner sur ce genre de conseils. Tu nous permets de constater qu'on s'humanise en allant chez le libraire, parce qu'on rencontre des vrais gens en chair et en os.
Des vrais gens, c'est exactement ce qu'on essaie de dire à tout le monde. Et pendant qu'on est fermé, on veut quand même essayer de continuer le conseil. Donc je dis aux gens que même s'ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent ou qu'ils cherchent quelque chose sans savoir ce qui correspond à leur recherche, qu'ils n'hésitent pas à nous faire des mails pour nous expliquer ce qu'ils recherchent. Et nous, on peut toujours les rappeler après avec un choix de plusieurs titres et qu'ils peuvent choisir. Donc on va essayer de continuer à les conseiller.
Tous les mois, il y aura les conseils qu'on pourra écouter donc sur Fréquence Mistral en podcast sur le site de fréquencemistral.com. Les conseils de la librairie de la Carline Fort-Calquier, tes collègues aussi participeront à oui. Ces coups de cœur. Et puis évidemment, oui. Il y aura les autres librairies de la région parce que l'union fait la force, comme on dit.
Exactement, ouais. Bah, merci de ce soutien en tout cas.
Merci infiniment, Marie-Aube Ruault, et puis on garde le lien, on lâche rien.
Oui.